Bonjour à toutes, bonjour à tous, Marc Doucet. Donc, je vais commenter le sujet de l'UE 11 du DCG de la session 2017. Alors, donc cette année, dans le sujet, il y avait trois dossiers. Un premier dossier qui portait sur l'évaluation de coûts de revient standard sur 7 points. Un deuxième dossier sur la gestion des approvisionnements qui était sur 5 points. Et un dossier numéro 3 qui était sur le pilotage et la mesure de la performance sur 8 points. Alors, avant de rentrer dans les spécificités de chaque dossier, quelques généralités. Donc, bien sûr, cette année, compte tenu du sujet, vous aviez le droit à une calculatrice, on est bien d'accord, il n'y avait pas de souci de cet ordre-là, encore que les calculs n'avaient rien en tant que tel de monstrueusement difficile, à part peut-être pour la gestion des stocks avec les racines carrées concernant la méthode de Wilson, mais disons que il n'y avait pas de problème de calcul insurmontable cette année. Eh bien, comme tous les ans, le problème principal de cette matière, c'est le temps pour arriver, j'entends, à faire tout et répondre correctement à tout dans les temps. Ça, c'est le seul vrai problème, j'estime, parce que sinon, en termes de difficulté au sens littéral du terme, d'un point de vue technique, franchement, au sens littéral du terme, il n'y avait pas, à mon sens, de difficulté majeure. C'est-à-dire que on était bien, d'un point de vue technique, dans le référentiel. Par contre, ou en revanche, si vous préférez, en dehors de la technique, notamment sur le dossier 3, là, il y avait quelques petits problèmes un peu plus délicats, puisque là, on sortait du problème de la technique au sens littéral du terme pour s'attaquer plus à des problèmes du type diagramme d'Ishikawa, des définitions, des concepts, etc., où on est presque plus en management qu'en contrôle de gestion. Ceci dit, très honnêtement, encore une fois, c'était tout à fait abordable pour avoir 10 sur 20, j'entends. Pour avoir 20 sur 20, quasiment impossible dans le temps imparti pour répondre à tout. Mais bon, pour avoir la moyenne, c'était très honnêtement possible. D'accord ? Donc, maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, ensuite, il y avait, donc, dans le premier dossier, élaboration des coûts de revient par les coûts standards. Donc là, une première question, grand classique, c'est du cours, comme je vous dis tout le temps, faut toujours commencer par répondre aux questions de cours, même si on ne sait pas tout, mais au moins on essaye de glaner des points. Rappeler les principes des coûts standards, définition, intérêt, limite, indiquer sur quels éléments le contrôleur de gestion peut se fonder pour déterminer les standards. Bon, moi c'est vrai que dans la correction, je vous ai fait un rappel de cours en même temps, quasiment, donc on n'attendait pas, comme je le dis toujours au début de la correction, autant des candidats, mais c'est ça, c'est pour vous montrer que si vous aviez bossé le cours, vous aviez la réponse à l'intérieur. Mais disons que ça, très honnêtement, c'était pas très difficile, y compris pour une question de cours. Bon, les coûts standards, ça fait quand même partie du grand classique du contrôle de gestion dans cette UE. Après, deuxième question, calculer le nombre d'ouvriers nécessaires à l'atelier de moulage. Alors là, pour le coup, franchement, aucune difficulté, j'allais dire presque, certains vont me trouver dur, mais enfantin, franchement, voilà. Troisième question, calculer le coût standard d'une heure productive ouvrier de l'atelier moulage. Un petit peu même avis, enfantin, rien de compliqué d'un point de vue technique. Quatrième question, calculer le coût standard des inducteurs des différentes activités. Alors bien sûr, si on n'a pas travaillé pendant l'année le coût des inducteurs, la méthode ABC, là c'est sûr, on peut pas s'en sortir, on est bien d'accord. Mais ceux qui l'ont travaillé, qui ont fait les cas pratiques, je pense, vous penserez à moi, ceux qui ont fait par exemple le cas Julien, le cas Alix, ne serait-ce qu'en ligne, ou les cas que je vous donne en devoir là-dessus, là c'était quand même très honnêtement beaucoup plus facile, d'autant plus qu'il n'y avait que 5 inducteurs et 3, 4, 5, 6, 7 activités, vous voyez, c'était pas techniquement très compliqué. Pas plus pour le volume des inducteurs, très honnêtement, que pour le coût de l'inducteur. Donc ça non plus, il me semble, enfin très honnêtement, que c'était pas monstrueusement difficile. Cinquième question, calculer le coût de revient unitaire standard du modèle A en précisant le détail unitaire de chaque élément de coût. Alors là, moi j'ai l'habitude, j'allais dire professionnellement et techniquement, je raisonne d'abord normalement globalement et après, pour raisonner unitairement, je refais un deuxième tableau en divisant tout par les quantités, ce qui me donne le résultat unitaire. Là, de la façon où était posée la question, il voulait le tableau avec, on va dire, le résultat unitaire uniquement, pas global, directement unitaire si vous voulez. Bon, pas de difficulté majeure, notamment pour les charges directes. Là, il y avait tout dans l'énoncé, par exemple, c'était bien précisé que il fallait 1800 kg de PVC pour faire une coque à 1,50 € le kilo, qu'il fallait 15 kg de peinture à 8 euros, qu'il fallait 200 armatures à 12 euros, etc. Donc, je veux dire, très honnêtement, pour les charges directes, aucun problème. Ensuite, pour les charges indirectes, puisque la méthode ABC, eh bien, on est tous d'accord, j'espère, un traitement particulier, en tout cas un traitement différent des charges indirectes par rapport à la méthode des coûts complets. Mais on reprenait exactement les 5 inducteurs de la question précédente, et il suffisait de trouver la quantité unitaire de chaque inducteur pour le modèle A, sachant que il avait été fabriqué 16 coques, 16 modèles A pendant la période, d'accord. Donc il n'y avait pas de difficulté majeure. Il y en avait un quand même, je trouvais, qui était un petit peu plus délicat, encore que, une fois de plus, ce problème a déjà été traité dans le cours, a été traité également dans les cas pratiques qu'il y avait. C'est l'histoire pour les références, hein, puisqu'au total, il y avait 7 références au total, et c'était sur ces 7 références trouver le nombre de références pour ces coques A. Bon, je vous ai mis le détail, là, je ne vais pas en parler, vous pouvez vous y référer. Bon, c'est pas mon souhait, mais c'est un petit peu délicat quand on n'a pas l'habitude. Après, les 3 dernières questions, c'était des questions, j'allais dire, de bon sens. Il est sur Stinox est surpris que le coût standard de revient que l'on a trouvé par la méthode ABC est supérieur à ce qui était prévu, c'est-à-dire les 6 800 €, alors que nous on trouve 7 974. Pourquoi ? Enfin bon, il est logique, là aussi c'est du bon sens, hein, c'est normal de ne pas trouver le même coût entre la méthode des coûts complets et la méthode ABC, puisque la nature même de la méthode ABC fait que on a, vous savez bien, il n'y a pas une seule unité d'œuvre par centre, mais dans chaque centre, on regarde quelles sont les activités, et après, les activités, on les recentre en fonction d'un même inducteur, donc forcément, c'est pas la même imputation, donc on ne peut pas trouver les mêmes résultats qu'avec la méthode des coûts complets. Donc vous voyez, c'était le même, c'était vraiment simple, logique, on va dire, en tout cas, c'était pas quelque chose d'ésotérique qui posait des problèmes insurmontables. Après, déterminer le prix de vente hors taxe d'un modèle A selon la base d'activité en respectant un certain nombre de conditions, dont le taux de marge brute à 20%, et sachant qu'il y a 3% de frais de prospection, excusez-moi, mais je trouve ça enfantin, là il n'y a aucune difficulté technique, et tant mieux, hein, voilà. Ensuite et enfin, après avoir apprécié le mode de détermination du prix de vente utilisé dans la question précédente, proposer 2 autres approches pour fixer le prix de vente. Bon, ben là, ça aussi, c'était dans le cours aussi, tous les problèmes de fixation du prix de vente dans le cadre, par exemple, du cours sur les coûts cibles, les centres de responsabilité, etc., etc. Donc là, pour fixer les prix de vente, en dehors référence au coût standard auquel on rajoute une marge, eh bien, on peut se référer au prix du marché, notamment si on est dans une activité à forte concurrence, un mixte de tout, entre parenthèses, mais ou alors se référer à un calcul de prix psychologique qui est le prix psychologique qu'on obtient suite à une étude de marché, qui nous donne le prix qu'accepteraient de payer les clients maximum et le prix auquel ils ne descendraient pas en dessous, parce qu'ils considéreraient que si c'était en dessous de tel prix, ça voudrait dire à leurs yeux que le produit est de mauvaise qualité. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Donc ça, c'était le premier dossier. Alors, vous voyez, pas monstrueusement difficile, très honnêtement, mais bon, quand même long, on va pas se mentir, voilà. Deuxième dossier, alors là, par contre, je ne m'en veuillez pas avec ce que je vais vous dire, mais là, j'estime que c'est cadeau. Là, c'est pas toutes les sessions pareilles, mais là, la gestion des approvisionnements, il y avait vraiment rien de compliqué, méthode de Wilson, nombre de commandes, nombre optimal... quantité optimale, nombre optimal de commandes, ensuite délai optimal de réapprovisionnement, ben, je veux dire que du cours de basique classique, voilà. Ensuite cette histoire de l'impact du stock de sécurité, vous l'aviez dans le cours, je vous fais un copier-coller de ce que j'écris dans le cours en l'appliquant, ça marchait sans aucune difficulté, très franchement. Donc vraiment ça c'était je crois, en toute objectivité, en essayant d'être le plus objectif possible, en tout cas, vraiment, là, il y avait des points à prendre très sérieusement, d'accord ? Et c'était faisable, je crois que c'était, je vais revérifier, je ne vais pas vous dire une bêtise, il me semble, ça, c'était sur 5 points. Eh bien, je vous dis que moi, les 5 points, c'était jouable dans le temps imparti pour les 5 points. Par contre, après, le dossier 3, c'est lui, alors, qui est le plus, pour moi, le plus délicat. Donc l'histoire du pilotage et de la mesure de la performance, qui était le dossier qui valait le plus de points, 8 points, je vous rappelle que le premier dossier coût standard 7 points, la gestion des approvisionnements 5 points et le pilotage 8 points. Donc là c'est vrai que c'était le dossier le plus long pour moi et le plus délicat parce que il y avait à la fois des notions de cours, bon ça à la limite si on avait bossé le cours il n'y avait pas trop de soucis. Par exemple, la première question, rédiger une note limitée à une page, rappelant les étapes de construction d'un tableau de bord opérationnel. Bon, ça, c'est classique. Par contre, déjà plus délicat, pas si évident que ça. Deuxième question, en respectant les étapes précédemment proposées, élaborer un tableau de bord adapté à l'activité commerciale, vente de piscine, comportant 10 indicateurs. Alors là, bon, c'est pas que ce soit difficile, mais c'est pas évident, quoi. Je veux dire, je me mets à votre place, ça a dû certainement perturber et faire perdre beaucoup de temps à certains d'entre vous, parce que là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, c'est pas un problème mathématique, etc. Donc c'est plus, j'allais dire, du bon sens, etc., etc. Hein. Donc on définit des objectifs avec des facteurs clés de succès, des facteurs clés de succès mesurables par des indicateurs. Je vous ai donné un certain nombre d'objectifs, de facteurs clés de succès et de mesures de ces facteurs clés de succès, donc des indicateurs. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que j'écris. Vous voyez, c'est le côté subjectif, même si, bon, il y en a quand même quelques-uns avec lesquels tout le monde va être d'accord, mais vous voyez, là, c'est délicat. Vous voyez, c'est pas comme mon compta en fisca où, là, la loi dit que c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il y a quand même des choses, c'est pas si évident que ça. Donc là, j'ai trouvé, moi, que ça, c'était pas forcément évident pour vous. Il me semble qu'une question aurait été plus facile, c'est qu'on vous proposait des facteurs clés de succès et ou des indicateurs, et puis vous demandez ce qu'on vous en pensiez, ou on vous donnait des facteurs clés de succès et on vous demandait des indicateurs et des mesures de indicateurs. Vous voyez, ça aurait été un sujet un peu plus facile. Là, c'est plus compliqué. Moi, ça m'a paru pas si évident que ça. Par contre, après... tout ce qui est écart sur main d'œuvre, analyse de l'écart, écart entre temps de présence et temps productif et temps improductif, là c'était vraiment de la technique de bas étage, enfin je veux dire aucune difficulté technique, donc ça pas de souci. Le commentaire sur les écarts, pas de problème. Par contre, la dernière question, alors on en revient avec le diagramme d'Ishikawa, donc encore une fois, on est à la limite du cours de management plutôt que du cours de contrôle de gestion, mais ça fait partie du référentiel du contrôle de gestion. Là, c'est là, à nouveau pareil, c'est pas que ce soit d'une complexité monstrueuse, c'est que dans le temps qu'est imparti, retrouver les fameux 5M, alors que déjà tout le monde n'est pas d'accord pour appeler ça des 5M, il suffit que vous vous référiez à des ouvrages il y a 2 ans ou un truc comme ça, on parlait pas des 5M, enfin bon, peu importe, c'est pas très grave, mais bon, les matières, les machines, les méthodes, la main d'œuvre, le milieu, et puis trouver les causes là, c'est pas que ce soit difficile, mais ça prend du temps, voilà, j'ai considéré que ça, c'était un petit peu délicat dans ce dossier. Donc dans ce dossier numéro 3, l'histoire du élaborer le tableau de bord sans rien donner comme disons comme ligne directrice, et le diagramme d'Ishikawa, non pas ce que c'est, ça d'accord, ce que c'est, mais il vous demande de présenter le diagramme. Pour chacune des 5 causes principales, il conviendra d'identifier 2 explications possibles, en plus, il vous en oblige, 2 explications possibles qui seront reportées sur le diagramme. Donc ça, c'était un peu plus délicat. Enfin, ceci dit, s'il n'y avait que ça qui vous avait posé problème ou qui vous ont posé problème, qui vous a posé problème le jour de l'examen, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen. Donc vous voyez, il faut être, à mon sens, aussi raisonnable. Je pense, même si je peux le regretter, mais je pense que l'objectif de la plupart d'entre vous, c'est pas d'obtenir 20 sur 20, c'est que c'est de pas se faire éliminer et d'essayer de s'approcher le plus possible de 10, voire de gratter un petit peu. Mais bon, l'objectif d'avoir 20 sur 20, c'est pas forcément l'objectif recherché par tout le monde. Mais 20 sur 20 en 4 heures pour tout ce qu'il y avait à faire, je considère que c'était pas gagné, quasiment même impossible à mon sens. Par contre, avoir 10 sur 20, c'était quand même faisable. C'est-à-dire que techniquement, au sens littéral du terme, il n'y avait pas de difficulté majeure. J'espère que c'est ce que vous avez ressenti également lorsque vous avez passé cette épreuve. Et inutile de vous dire que j'espère que vous aurez de bonnes surprises. En tout état de cause, merci à tous, bon courage et à bientôt sur Comptalia. Au revoir.